Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant. Bienvenue dans cette troisième et dernière partie de la Grande Table, dans la bibliothèque d'Emmanuel Macron, toute cette semaine autour de 13h20. Brice Couturier donne un conseil de lecture au nouveau président. Un livre, un essai, français ou étranger, qui pourrait guider l'action du chef de l'État. Ce mercredi, le Nobel d'économie américain Edmund Phelps pour la prospérité de masse, c'est le titre de cet ouvrage qui vient d'être traduit chez Odile Jacob. À noter que nous recevrons l'économiste très prochainement dans la Grande Table lors de son passage à Paris. Mais d'abord, on ouvrira cette grande table des idées avec un spécialiste de la mondialisation, l'historien Pierre Singaravelou, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et membre de l'Institut universitaire de France, rédacteur en chef de la revue Monde et membre du comité de rédaction de la Vie des idées. Singaravelou a publié plusieurs ouvrages sur l'histoire du fait colonial et sur la mondialisation en Asie. Parallèlement, il mène des recherches sur l'analyse contrefactuelle en histoire, une approche méconnue et peu utilisée en France, très utilisée en revanche dans le monde anglo-saxon. Avec Quentin Deluermoz, il a publié l'an passé un des essais les plus intéressants et originaux de 2016, Pour une histoire des possibles, une réflexion novatrice sur l'écriture de l'histoire, sa définition et sa mise en partage. En ce début d'année, il a contribué à l'Histoire mondiale de la France, dirigée par Patrick Boucheron, que l'on recevait à cette occasion, Patrick Boucheron. Et ce printemps, il fait paraître aux éditions du Seuil, Tianjin Cosmopolis, une autre histoire de la mondialisation. Bonjour à vous, Pierre Singaravelou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. À mes côtés, Antoine Mercier, pour vous interroger. Tianjin, tout d'abord, cette ville qui est au cœur de votre ouvrage, capitale diplomatique de l'Empire du Milieu. En quoi est-ce pour vous, aujourd'hui, un laboratoire de la mondialisation, déjà à l'époque ?
Alors Tianjin, c'est une ville qui se situe à 140 km à peu près de la capitale impériale Pékin. Et qui, en fait, est une sorte de maelstrom à partir des années 1870 où semblent se rejoindre tous les courants du monde. En fait, c'est une ville où affluent les explorateurs en tout genre, les aventuriers, les commerçants, les missionnaires aussi, parce que c'est l'une des principales portes d'accès à la Chine. À cette époque, Pékin est, disons, peu accessible en raison de la chape de plomb impériale politique qui recouvre la ville. Et donc, les diplomates, les commerçants se retrouvent plutôt à proximité du littoral, à proximité de ce golfe de Bohai qui est au nord-est de la Chine, pour échanger, discuter, commercer, négocier aussi des traités diplomatiques.
Comment vous, l'historien, vous arrivez à Tianjin en 1900 ?
Alors, en fait, c'est totalement fortuit. il s'agit d'une conférence, en fait, à laquelle j'étais invité dans cette ville, qui est aujourd'hui une mégapole de plus de 15 millions d'habitants, 16 millions d'individus. C'est sans doute la quatrième ville de Chine.
Qu'on connaît assez peu. Hein,
on connaît très peu, en fait.
De Pékin, on a pris... Beijing.
En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle était très connue en 1900. Cette ville, comme Pékin, faisait la une du petit journal à l'époque, à Paris et en France. Et ensuite, elle était totalement oubliée et l'Europe et l'Occident, entre guillemets, a appris à la connaître, là aussi de façon fortuite, il y a deux ans, en 2015, avec l'explosion d'entrepôts, l'explosion spectaculaire, invisible depuis l'espace, d'entrepôts dans la banlieue de Tianjin, qui fait que cette ville a à nouveau fait la une de la presse mondiale. Alors en fait, je l'ai découverte à l'occasion d'une conférence, précisément sur le patrimoine urbain de cette ville en 2009, et à ce moment-là, je me suis rendu compte que depuis 4 ans, les autorités municipales et nationales chinoises, eh bien, rénover des quartiers qui étaient en fait les quartiers des anciennes concessions. Il y a eu 9 anciennes concessions états-uniennes, françaises, belges, austro-hongroises, allemandes, japonaises, russes, britanniques. Des quartiers qui sont progressivement rénovés, transformés en une espèce de parc d'attractions géant, un Disneyland chinois, diront certains. Qui est assez déroutant, assez baroque, parce que certains bâtiments sont reconstruits à l'identique, hein, selon la formule chinoise, c'est-à-dire très différemment des plans originaux. Et c'est ce qui m'a donné cette idée de travailler sur, au fond, un apax dans l'histoire mondiale contemporaine, c'est-à-dire le seul endroit sans doute au monde où se sont retrouvés 10 empires différents dans un mouchoir de poche.
Il faut peut-être rappeler qu'on est juste loin, pardon, de l'image, du plan de Tianjin, cette ville que vous venez nous décrire aujourd'hui et que vous mettez en couverture du livre, avec son chemin de fer, avec ses usines qui crachent leur fumée noire, avec cette cité centrale fortifiée. Antoine Mercier.
Non, c'était juste un point de connaissance, parce qu'il faudrait peut-être rappeler ce que c'est qu'une concession, puisque vous dites qu'il y avait une dizaine de pays européens, d'empires, qui avaient une concession, quelques rues, un quartier dans cette ville.
C'est juste, alors nous connaissons les concessions principalement à travers une source, qui est d'ailleurs une source historique de grande qualité, Tintin et le Lotus Bleu, publié au début des années 1930, qui est de qualité parce que Hergé s'est appuyé sur le témoignage de son ami chinois Chang, qui lui a apporté des informations de première main. Et les concessions, en fait, se développent à partir de la première guerre de l'opium, des années 1840. D'abord à Shanghai, et puis avec la seconde guerre de l'opium à Tianjin, ce sont en fait des territoires qui sont utilisés à l'origine par le pouvoir chinois pour mettre à distance l'influence étrangère et la présence étrangère, la contrôler, la cantonner précisément.
On concède ce territoire.
Donc on concède ce territoire qui formellement n'appartient pas aux étrangers, mais qui est loué de façon perpétuelle par les puissances étrangères, ce qui fait que formellement, eh bien, le pouvoir chinois, l'empereur chinois conserve la souveraineté. En réalité, ces concessions sont très rapidement de micro-colonies dans lesquelles les différentes puissances exercent des pouvoirs régaliens avec leur propre police, leur propre justice, ils prélèvent l'impôt. Donc il y a très rapidement un décalage au fond entre la définition chinoise de la concession et puis l'interprétation occidentale.
Mais c'est tout petit quand même, la concession française par exemple dans cette ville, ça représente quoi en
c'est
termes
tout petit,
de population
c'est un tout petit quartier, alors qui en fait concentre très rapidement une population importante qui attire à partir de l'extrême fin du 19e siècle et le début du 20e siècle de très nombreux étrangers. Ce qui est intéressant, c'est que ces concessions sont à l'image des colonies en général, des colonies françaises en particulier. Les Français ont bien souvent été minoritaires parmi les Européens présents dans leurs colonies, comme par exemple en Tunisie, les Italiens étaient plus nombreux que les Français. Et bien là, c'est la même chose. Les Français sont minoritaires, y compris parmi la population étrangère, avec des Russes, des Japonais, des Britanniques, des Belges qui sont très présents. Et puis, ils représentent une minorité, c'est-à-dire qu'en tout, on compte à peu près 5000 étrangers autour de 1900 à Tianjin pour plus de 30 000 soldats, étrangers sur place, 5000 civils, et puis très rapidement cette population va s'accroître avec plusieurs dizaines de milliers d'étrangers qui vont s'installer sur place dans ces concessions de Tianjin, avec par exemple les juifs qui vont fuir les pogroms dans l'entre-deux-guerres, les russes blancs également à partir de 1920, et puis toute une série de chinois eux-mêmes qui vont s'installer dans les concessions parce que les concessions bénéficient d'un droit d'extraterritorialité, c'est-à-dire que le pouvoir chinois ne peut pas intervenir dans ces concessions françaises, britanniques, etc. Et donc les militants révolutionnaires, nationalistes, chinois, communistes vont très rapidement se réfugier dans ces concessions pour pouvoir militer plus tranquillement.
Ville-monde avant l'heure, vous le racontez, cité cosmopolite où se croisent chinois, mandchous, français, britanniques, états-uniens, allemands, japonais, russes, belges, italiens, austro-hongrois, canadiens, danois, norvégiens, australiens, vietnamiens, mongols, tamouls, rajpoutes, benjabis, coréens, philippins, juifs, Ashkénazes, ottomans, grecs et aussi quelques apatrides. À peu près toute la Terre, toute la planète est réunie quasiment dans cette ville. En ce début du 20e, le monde entier s'intéresse à cette cité et pas que pour des raisons économiques, c'est ce qu'on comprend à vous écouter. Mais qu'est-ce qui s'y passe exactement? De quelle manière, en tout cas, Tianjin porte-t-elle ou préfigure-t-elle une certaine mondialisation?
Alors, Tianjin, à mon avis, incarne une certaine mondialisation que je dénomme la mondialisation impériale. Parce que c'est une mondialisation qui s'opère d'abord à travers l'expansion coloniale. Donc c'est une mondialisation qui a prévalu, disons, globalement à l'échelle planétaire entre le milieu du 19e siècle et le milieu du 20e siècle, à travers notamment l'expansion britannique, mais pas seulement, puisque ce livre justement est une réponse à la théorie du célèbre historien américain, enfin d'origine écossaise, Niall Ferguson, qui parle d'englobalisation pour dire que le monde moderne que nous connaissons aujourd'hui est le résultat de cette expansion coloniale britannique partout dans le monde où auraient été, disons, diffusées les institutions britanniques, les pratiques culturelles, la langue britannique. Et bien, on se rend compte quand on étudie précisément ce type d'exemple que c'est beaucoup plus compliqué. D'abord, d'autres puissances ont joué un rôle important comme la France, avec ce qu'on pourrait appeler une francobalisation. Là, il s'agit de 8 ou 9 grandes puissances qui rivalisent d'influence précisément à ce moment-là. Et puis en plus, ce qui caractérise cette mondialisation impériale, c'est le rôle de puissances extra-européennes comme le Japon, qui va devenir à ce moment-là, au tournant du 19e et du 20e siècle, la nouvelle nation la nouvelle nation civilisatrice par excellence. Et à côté de ces Japonais, ce qu'on observe aussi, c'est que cette mondialisation n'est pas un pur et simple phénomène d'occidentalisation. C'est ça la caractéristique, une des caractéristiques principales de la mondialisation impériale, c'est le rôle fondamental joué par les populations autochtones, là en l'occurrence par les élites chinoises, qui coproduisent cette modernité urbaine en participant très concrètement aux différentes activités, aux différentes réformes qui vont être menées notamment par ce fameux gouvernement international qui est mis en place à la suite de la révolte des boxeurs.
Mais le tout quand même teinté d'universalisme d'une certaine manière. Cette révolte des boxeurs, il faut peut-être s'arrêter sur ce temps fort de cette expérience à la fois pacifiste et conflictuelle que vous racontez, quand ces grandes puissances sont en rivalité sur ce territoire. La guerre des boxeurs à l'été 1900, qu'est-ce qui s'y passe? En quoi est-ce un moment fondateur?
Alors cette guerre des boxeurs, c'est au fond la première guerre mondiale, ou disons la dernière croisade du 19e siècle. Elle est le fait de ce qu'on appelle les boxeurs, c'est-à-dire souvent de jeunes garçons et de jeunes filles hein, qui ont entre 13 et 17 ans qui sont souvent des victimes de la mondialisation. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de dockers, de bateliers qui sont au chômage précisément à partir de 1898, c'est-à-dire quelques mois après la mise en place de la ligne de chemin de fer qui relie Tianjin à Pékin. Et puis il y a aussi de purs produits de la mondialisation, les conducteurs de pousse-pousse, de rickshaw, qui sont le rickshaw, c'est une invention japonaise des années 70, qui va se diffuser dans toute l'Asie. Hein, et il y a 8000 chauffeurs de rickshaw, conducteurs de rickshaw à Tianjin à cette époque, qui vont quasiment tous devenir boxeurs. Et donc ces boxeurs se rebellent dans le nord-est de la Chine à partir de 1898. Contre quoi? Contre la présence étrangère, qui est de plus en plus importante depuis ces fameuses guerres de l'opium dont on a parlé, depuis le milieu du 19e siècle. Et ils se rebellent aussi contre les conversions de certains Chinois au christianisme. Et donc ils vont s'attaquer prioritairement au principal symbole de cette modernité importée, imposée, modernité étrangère en Chine, qui est Tianjin. Hein, Tianjin avec ses concessions. Et donc les boxeurs s'installent à Tianjin à l'été 1900, et c'est à la suite de cette prise de la ville par les boxeurs qui en font leur capitale révolutionnaire en instaurant un régime égalitaire, hein, qui est très intéressant à étudier en soi. C'est-à-dire c'est quand même une ville qui va être régie par des enfants, des adolescents, qui vont tout partager, la nourriture, qui vont s'astreindre à une abstinence sexuelle, d'alcool, et qui vont surtout mettre à bas momentanément la hiérarchie traditionnelle, celle du patriarcat confucéen, puisque les jeunes filles boxeurs vont se laisser pousser les cheveux, vont sortir le soir après le coucher du soleil. Et puis en plus, ils vont remettre en question la domination des mandarins et du système impérial, en prenant le pouvoir tout simplement avec la sainte mère des boxeurs qui va régner sur la ville pendant plus d'un mois.
Alors ce gouvernement provisoire que vous évoquiez, qui le forme ?
Alors précisément à la suite de la prise de la ville par les boxeurs, se forme une coalition internationale des 8 grandes puissances de l'époque que j'ai évoquées tout à l'heure, hein, de la France au Japon en passant par l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, la Russie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui se réunissent pour mater cette rébellion des boxeurs. Et donc c'est la fameuse expédition de Chine à l'été 1900. Qui va avoir quelques difficultés à vaincre ces boxeurs. Ça va nécessiter plusieurs semaines, plusieurs mois en réalité de combat, parce que les boxeurs sont très efficaces militairement. Et à la suite de ces différentes batailles, eh bien les étrangers, les puissances alliées, comme on les dénomme à l'époque, vont instaurer le premier gouvernement mondial, le premier gouvernement international de l'ère contemporaine. C'est-à-dire qu'on est là 20 ans avant la Société des Nations.
Un gouvernement militaire international, une forme éphémère de mondialisation politique, écrivez-vous.
Oui, alors c'est une forme éphémère de mondialisation politique et une forme fortuite, puisque en réalité tout cela n'était pas prévu, n'était pas programmé. C'est tout simplement parce qu'aucune de ces grandes puissances n'est capable de prendre le leadership. La Grande-Bretagne est affaiblie par la guerre des Boures au même moment, les États-Unis par la guerre avec l'Espagne à Cuba notamment. Les puissances émergentes rivalisent, Russie, Japon notamment dans la région, et puis la France n'est que le second empire colonial et se focalise sur l'Indochine. Et donc toutes ces puissances décident de s'associer pour fonder ce gouvernement au sein duquel elles vont se répartir des ministères en fonction du soi-disant génie national propre à chaque pays. Par exemple, on va confier le ministère des Finances à l'Allemagne, le ministère de la Justice aux États-Unis, la police à la Grande-Bretagne, la santé, par exemple, les questions sanitaires à la France, qui s'illustre dans ce domaine depuis plusieurs décennies alors. Et donc, ce gouvernement international a pour objectif de réprimer les boxeurs et surtout de réformer profondément la ville et sa région.
Alors, cette globalisation que vous dites impériale, quelle grande différence faites-vous avec notre globalisation à nous ? Qu'est-ce qui change finalement ? Et qu'est-ce qui peut-être se rapproche ?
Alors, ce qui change, c'est d'abord sa nature coloniale. C'est une globalisation qui s'effectue jusqu'au milieu du 19e siècle, à travers cette expansion impériale, qu'elle soit informelle ou formelle, et qui s'effectue donc bien souvent à travers les conquêtes et la guerre. La différence avec la mondialisation actuelle, c'est que cette mondialisation est plus irénique, disons apparemment pacifique, même si évidemment elle est faite de rapports de force et de rapports de domination. Le point commun entre ces deux formes de domination, eh bien, c'est l'importance de la capacité d'appropriation des populations autochtones. C'est-à-dire que, je vous disais tout à l'heure que la mondialisation en 1900 n'est pas une pure et simple occidentalisation. Eh bien, c'est encore le cas aujourd'hui. Les populations à travers le monde ne sont pas de plus en plus occidentalisées. Elles s'approprient des
même
éléments.
Même dans cette ville de Tianjin.
Y compris dans cette ville de Tianjin. Alors, cette ville de Tianjin qui, certes, est marquée par l'influence étrangère, mais qui va se réapproprier de 1900 à nos jours des éléments culturels étrangers. Par exemple, il y a une pratique qui est identitaire à Tianjin, c'est le basket. Aujourd'hui, Tianjin est toujours la capitale sportive de la Chine. Et ça remonte à la fin du 19e siècle, où en fait le premier club de sport, le premier club de football est créé en Chine à Tianjin en 1884. C'est le cas aussi de la première université moderne en 1895, de toute une série d'innovations, le premier télégraphe, la première gare ferroviaire, etc. Et à Tianjin, eh bien, les acteurs des YMCA américains introduisent dès 1896 le basket dans cette ville de Tianjin. 1896, ça ne vous dit rien, mais c'est simplement 4 ans après que William Naismith ait inventé, codifié le basketball aux États-Unis. C'est-à-dire bien avant que le basketball soit introduit en Europe. Et à partir de ce moment-là, le basket est réapproprié par les Chinois, mais pas du tout, si vous voulez, dans l'optique occidentale de la diffusion d'un christianisme musculaire, d'une disciplinarisation des corps du point de vue chrétien. Mais les Chinois en font un sport, disons, municipal et chinois, qu'ils se sont totalement appropriés.
Le basket et le tennis de table, le ping-pong. Vous savez qu'Antoine Mercier est un roi de la raquette. La Chine d'hier, en tout cas, et celle d'aujourd'hui, est-ce que la Chine, qu'on connaît comme étant une championne de la mondialisation, est aussi celle qui l'a inventée d'une certaine manière ? Écoutez, le président chinois, Xi Jinping, au sommet annuel de Davos, c'était en janvier dernier, pour s'attaquer au protectionnisme de Donald Trump.
Le protectionnisme, c'est comme s'enfermer dans une chambre noire. On se protège peut-être du vent et de la pluie, mais on se prive aussi d'air et de lumière. Personne ne sortira vainqueur d'une guerre commerciale, a averti le président chinois, qui a toutefois concédé qu'il fallait rééquilibrer la mondialisation.
Voilà, alors la Chine sera-t-elle celle qui va permettre ce rééquilibrage, la Chine championne de la mondialisation aujourd'hui ?
Ouais, c'est très intéressant, c'est très nouveau ce discours de Xi Jinping prononcé le 17 janvier dernier à Davos. C'est la première fois qu'un président chinois se rend à Davos. Hein. Auparavant, on envoyait des hauts fonctionnaires ou des seconds couteaux. Et là, en fait, Xi Jinping profite au fond du repli états-unien et au fond du discours protectionniste de Donald Trump pour transformer la Chine en héros de la mondialisation, héros du libre-échange.
C'est comme les baskets finalement, ils ont repris ça, la balle au bon.
Exactement, ils ont repris cette balle au bon. Et ce qui est intéressant, au fond, c'est chez Xi Jinping la tension entre une vision de la mondialisation heureuse et puis la prise en compte d'un passé extrêmement douloureux lié à ce qu'ils appellent le siècle des humiliations impérialistes. C'est-à-dire que d'un côté, aujourd'hui, la Chine n'a pas le choix parce qu'elle est très dépendante du reste du monde. C'est le premier exportateur mondial. Ils ont besoin d'acheter à l'extérieur 50% de leur charbon, 50% de leur ciment, etc. Et d'un autre côté, à usage interne, Xi Jinping ne cesse de d'évoquer ce passé extrêmement difficile de ce qu'il appelle la colonisation, alors que ça a été plus compliqué dans les faits. Il s'agit d'une présence semi-coloniale ou informelle de la part des nations européennes en Chine, qu'il évoque par exemple dès son accession au pouvoir en 2012, lorsqu'il est nommé secrétaire général du Parti communiste. Il fait déjà parler de lui parce qu'il refuse de prendre la parole dans le Grand Palais du Peuple, mais Il effectue son premier discours sur l'avenir du Parti communiste et l'avenir de la Chine dans le musée d'histoire de Pékin, qui à cette époque a organisé une exposition sur la présence impérialiste en Chine depuis 1849.
Mais qu'il se fasse l'avocat de la mondialisation, ça ne vous surprend pas ?
Non, pas du tout. Parce
c'est plutôt
qu'en réalité,
la manière, les mots qu'il emploie.
Non, ça ne me surprend pas parce que c'est un sujet qui est travaillé en ce moment par la philosophe Han Cheng, qui montre que le régime actuel s'inscrit dans une forme de néo-confucianisme qui s'inspire d'un universalisme chinois. Hein, on a souvent considéré que les Chinois étaient repliés sur eux-mêmes, xénophobes, etc. Alors qu'il existe une tradition universaliste. Et cette Chine, au fond, défend aujourd'hui le projet d'une grande Chine, hein, qui reprend cette tradition universaliste.
Notre invité, auteur de Tianjin Cosmopolis, une autre histoire de la mondialisation au seuil, Pierre Singaravelou, est par ailleurs un historien qui participe au renouveau de sa discipline et qui s'engage dans le débat. Tout à dire, rien à faire. Il y a de quoi dire justement en ce moment. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h30.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
L'histoire mondiale de la France, vous avez participé à cet ouvrage collectif, ça a été un grand succès éditorial, mais c'est aussi un livre qui a fait l'objet de certaines polémiques nourries par des intellectuels français. Cette question de l'identité qui est au cœur de cet ouvrage et qui provoque pas mal de réactions négatives, vous l'expliquez comment, cette tension qui peut y avoir aussi aujourd'hui encore autour de cette question identitaire? Est-ce que le fait de dresser une histoire mondiale est une réponse à ces replis, à ce questionnement identitaire?
Oui, alors cette question identitaire, alors il y a la question identitaire qui est centrale pour expliquer ces quelques réactions négatives. Et puis il y a tout simplement le rapport à l'histoire et aux faits historiques. Nous, ce qu'on souhaitait à travers l'histoire mondiale de la France, ça n'était pas de livrer un énième dictionnaire des grands hommes ou un catalogue des événements canoniques de l'histoire de France. C'était plutôt, au fond, revisiter cette histoire en décentrant un peu le regard, en élargissant le cadre d'analyse, c'est-à-dire inverser les perspectives, ce qu'on évoquait tout à l'heure à propos de Tianjin.
Ça vous a été reproché d'ailleurs.
Des Européens et des Chinois, des colonisateurs et des colonisés. C'est aussi faire varier les échelles, échelles locales, régionales, nationales, internationales. Et c'est aussi prendre en compte tout simplement des phénomènes qui transcendent les frontières, c'est-à-dire la mobilité des hommes, des femmes. Ça nous renvoie là aussi à l'histoire de la mondialisation. Par exemple, les pandémies, les innovations technologiques qui circulent, qui se jouent des frontières, la circulation des marchandises, des capitaux, etc. Donc, si vous voulez, l'idée, ça n'est pas de proposer, de prétendre, disons, écrire une vérité absolue, mais c'est plutôt de restituer une histoire plurielle, complexe, diverse, qui, au fond, offre un portrait plus riche de l'histoire de France et sans doute plus ressemblant.
Qu'est-ce que vous répondez aux critiques nombreuses qui ont été faites sur votre livre? Je pense à celle de Pierre Nora notamment, sur le fait que vous avez finalement dissous l'essence, enfin, la substance de ce qui pourrait être une histoire nationale.
Alors nous croyons que c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que cette histoire ne dissout pas la France, elle a pour viser de mieux la comprendre, c'est-à-dire précisément à travers cet élargissement du cadre d'analyse, cette contextualisation européenne et mondiale, il s'agit de mieux comprendre la lente et progressive construction de quoi ? De l'État-nation français. Donc il ne s'agit pas du tout de la dissoudre, mais de la revisiter, de voir en quoi la France, comme tous les pays, comme la Chine dont on vient de parler, est travaillée par le monde. La France est traversée par le monde et que l'historien a, et les historiens et les historiennes ont pour obligation de prendre en compte cet état de fait. C'est vrai que jusqu'à la fin du XXe siècle, on a été victime de ce qu'on a appelé le nationalisme méthodologique, c'est-à-dire l'idée de que, au fond, l'unité de réflexion, de référence de l'historien, mais aussi du chercheur en sciences sociales, eh bien, c'est l'État-nation. Bon, la mondialisation, la créolisation du monde, comme dit Édouard Glissant, elle bouleverse notre cadre d'analyse et on est obligé forcément de le décentrer, de l'élargir.
Et ça donne cette histoire mondiale de la France.
Vous réfléchissez souvent, Pierre Saint-Garavelou, aux conditions d'une mondialisation positive plutôt qu'une mondialisation heureuse. Vous avez notamment, l'an passé, dans une tribune parue dans Libération, plaidé pour un projet original porté par la gauche autour d'une identité mouvante plutôt que figée et une identité partagée. Assumer la mondialisation au lieu de la nier. Est-ce que la gauche, c'est ce qui est apparu pour vous durant cette campagne avec la résurgence de ce clivage mondialiste, patriote, est-ce que la gauche aussi a pour vous un problème aujourd'hui avec la mondialisation ?
Oui, la gauche a du mal à, depuis au moins la décolonisation, à avoir une pensée globale, à repenser son rapport au monde et a notamment un problème avec l'identité. Cette question identitaire, elle occupe tout l'espace public, le débat public depuis au moins le mi-temps des années 1980. Ça, c'est Vincent Martini qui a bien montré ça dans son livre. Et au fond, la gauche a perdu une bataille idéologique, au fond, en laissant le débat public se focaliser, se réduire à cette question identitaire, aux dépens de la question fondamentale qui est celle de l'égalité. Cette question de l'égalité qui est la seule, la première, disons, étoile polaire de la gauche, qui la structure idéologiquement depuis près de deux siècles. Et en fait, on voit bien que depuis quelques années, c'est encore le cas aujourd'hui, la gauche est fracturée, divisée, entre différentes options qui ne parviennent pas à résoudre cette question identitaire, avec d'un côté ce qu'on pourrait appeler des multiculturalistes échevelés, qui considèrent qu'il faut absolument défendre et promouvoir les identités des minorités au risque de les enfermer dans leurs différences parce que ça compenserait le défaut d'égalité, d'une égalité qu'on ne leur accorde pas. Et puis de l'autre côté, à contrario, une gauche de plus en plus radicalisée dans une interprétation, dans son interprétation de l'identité, qui considère, alors cette gauche on pourrait la dénommer assimilationniste, qui considère eh bien que tous les habitants de notre pays doivent se convertir à une seule et même identité nationale.
Et pour vous, Pierre Saint-Garavelou, pensez ces terres nouvelles, c'est aussi penser un pouvoir nouveau. Comment ne pas penser le pouvoir, a fortiori le pouvoir démocratique, quand le peuple du 21e siècle s'est mondialisé, connecté, veut s'affranchir des contraintes d'espace et de temps. On va aider justement Emmanuel Macron, notre nouveau président, à penser ce nouveau temps et ce nouveau pouvoir avec Brice Couturier qui vient de rejoindre. Bonjour.
Bonjour Olivia.
Et votre conseil de lecture du jour?
Monsieur le Président de la République, dans votre livre Révolution, vous écrivez « Aujourd'hui, la France ne doit pas rater le virage de l'innovation et de la numérisation de son économie » et vous faites l'éloge du modèle entrepreneurial de la start-up, fermant, je vous cite, d'une transformation économique et d'un changement culturel. Or, le monde intellectuel est aujourd'hui divisé entre techno-optimistes et techno-pessimistes. Un livre paru l'an dernier, « Is US Economic Growth Over ?», a contribué au scepticisme des premiers. Il est l'œuvre d'un spécialiste américain de l'histoire économique, Robert Gordon. Celui-ci estime que les grandes innovations qui ont stimulé l'économie mondiale entre 1870 et 1970, électricité, automobile, avion, radio, télévision, ordinateur, sont derrière nous. Nos économies auraient atteint, selon lui, un plateau technologique. C'est la raison pour laquelle la croissance est si molle depuis plusieurs décennies, tant aux États-Unis qu'en Europe. Gordon ne nie pas qu'il y ait encore de nos jours des innovations intéressantes, mais il estime qu'elles auront dorénavant sur la croissance économique un impact beaucoup plus faible que celles qu'ont produit dans le passé le moteur à combustion interne ou bien l'électricité. L'économiste turco-américain Danny Roderick estime de son côté que l'innovation n'a plus dorénavant qu'un faible impact sur la productivité, parce que les secteurs d'activité touchés par la révolution numérique sont marginaux. La grande majorité de nos dépenses est consacrée à la santé, au logement, à l'éducation, au transport, activité peu touchée finalement par les grandes avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle, l'automatisation ou la numérisation. Alors certes, des secteurs comme les technologies de l'information et de la communication, elles sont fortement impactées, c'est vrai, mais leur importance relative au sein d'une économie moderne est trop faible pour peser. En outre, selon Roderick, le surplus de croissance créé par la numérisation et la robotique ne suffiront pas à compenser le basculement des travailleurs peu qualifiés de l'industrie traditionnelle vers des services à productivité faible et salaire moins intéressant. Deux économistes suédois, Fredrik Eriksson et Björn Weigel, viennent de publier un livre intitulé « L'illusion de l'innovation » que je vous recommande particulièrement. Il montre comment et pourquoi l'innovation a eu tendance ces derniers temps à ralentir. Ce qu'il faut craindre, écrivent-ils, c'est moins d'être bousculé par le progrès technique que de voir celui-ci étouffer. En cause en premier lieu, les changements de nature du capitalisme. Loin d'être la force révolutionnaire de destruction créatrice que décrivait Schumpeter avant-guerre, il est devenu hostile au risque et timoré. Il ne se renouvelle pas. En Suède, sur les 50 plus grandes entreprises, 30 ont été fondées avant le début de la Première Guerre mondiale et les 20 autres avant 1970. Pourquoi ? Eh bien parce que les capitaux sont désormais entre les mains de fonds de pension et de fonds souverains qui détestent par-dessus tout la prise de risque. Et pour cause, ils sont destinés à financer des retraites. Ce capitalisme aux cheveux gris veut des rendements sûrs et immédiats. Il ne favorise ni les investissements de long terme, ni la recherche et développement. La mondialisation, dans un premier temps, a provoqué une concurrence favorable à l'innovation, mais elle a conduit à un tel niveau de spécialisation des pays dans la chaîne de valeur qu'il est devenu très difficile et coûteux aux nouveaux venus de s'y faire une place. Enfin, et là vous y pouvez quelque chose, monsieur le Président, la manie régulatrice décourage les nouveaux entrants. Souvent, ces normes sont adoptées sur la pression des grosses entreprises auxquelles elles sont bien adaptées afin d'empêcher la concurrence des jeunes pousses. Le principe de précaution est utilisé dans bien des cas comme un frein à l'innovation. Si nos ancêtres l'avaient connu, ils n'auraient laissé construire ni des automobiles et encore moins des aéroplanes.
Le livre de vos économistes suédois, Eriksson et Weigel, est traduit en français pour monsieur
non,
le Président?
Non,
il faudra qu'il le lise en suédois dans le texte. Alors.
Non, il est traduit en anglais.
Merci beaucoup. Et vous deviez nous parler aujourd'hui du livre d'Edmund Phelps. Vous avez changé visiblement vos conseils de lecture. Donc ce sera pour demain. Super. Merci beaucoup Brice Couturier. En attendant, on peut réécouter cette chronique sur franceculture.fr. Un grand merci à vous, Pierre Singaravelou, Tianjin Cosmopolis, une autre histoire de la mondialisation, un ouvrage en français qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Merci à Antoine. Merci. remercier pour sa co-interview et à toute l'équipe de La Grande Table, Claire Maillot et Clémence Marie, Henri Leblanc et Nicolas Dutant, avec l'aide précieuse de Coppelia Ménardi et Andrea Kinapi. Ensemble, ils ont préparé cette émission en manette ce mercredi, Péril le Gras, avec Pierre Faucillon. Rendez-vous à la page de La Grande Table sur franceculture.fr pour nous podcaster, nous écrire et retrouver toutes les informations en lien avec l'émission. Je vous dis à demain et d'ici là, très bel après-midi sur France Culture.